Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Conseil de défense à l'Élysée aujourd'hui pour évoquer les mesures à prendre sur l'épidémie de Covid-19. Les foyers de contamination se multiplient, les risques aussi. Exemple avec cette fête illégale interdite de justesse dans le Val d'Oise, précision d'Olivier Vogel. Aux États-Unis, la convention républicaine qui devait introniser Donald Trump en vue de l'élection présidentielle est annulée. L'épidémie de coronavirus est une épine dans le pied du président américain, nous expliquera Loïc Loury. Des satellites patrouilleurs dans l'espace, la France se lance dans la dissuasion spatiale avec la création du Grand Commandement de l'espace. Une bataille qui est d'ordre mondial puisque les accrochages se multiplient, notamment entre la Russie et les États-Unis. Et une étude sur le rejet de plastique dans les océans. La quantité de plastique devrait tripler d'ici 20 ans si rien n'est fait d'ici là. Mais enrayer cette pollution est encore possible, nous détaillera Véronique Rebérotte. L'épidémie de Covid-19 repart doucement en France. L'exécutif étudie la question aujourd'hui lors d'un conseil de défense et va proposer de nouvelles mesures avec des questions qui restent toujours en suspens sur les frontières ou les tests aux aéroports. Le gouvernement qui se veut attentif à la reprise du virus, qui étudie les foyers de contamination et les zones à risque. Une fête géante a d'ailleurs été interdite dans le Val d'Oise. Une rave party qui devait réunir plusieurs milliers de personnes à partir de demain au cœur de la forêt de Montmorency. Olivier Vogel.
Généralement, les voisins, les maires, les gendarmes ou les policiers découvrent les free parties au moment où les baffles crachent déjà leurs watts devant des milliers de teufeurs. Mais à Saint-Prix, c'est en surfant sur les réseaux que la préfecture du Val d'Oise a eu la puce à l'oreille. Philippe Brugnot est le directeur de cabinet du préfet.
La surveillance des réseaux sociaux que nous faisons régulièrement a permis en fait de révéler l'organisation d'une potentielle rave party dans le Val d'Oise, devant regrouper plusieurs milliers de personnes ce samedi 25 juillet. Il s'agit d'informations qui sont d'accès libre sur tous les réseaux sociaux, puisque pour rien vous cacher, on a découvert l'information en consultant le réseau Facebook sur lequel la préfecture est également. Et c'est à partir de ces informations-là que nous avons pris la décision d'interdire cette rave party.
Décision motivée par la situation sanitaire, dans une rave, les gestes barrières sont compliqués. Il y a aussi l'endroit où devait se tenir cette free party. Le Faisan Doré, une ancienne crêperie au cœur de la forêt de Montmorency, un bâtiment délabré qui fait l'objet d'un arrêté de péril imminent. Pour couper l'herbe sous le pied des teufeurs, le préfet du Val d'Oise a pris deux arrêtés valables tout le week-end dans tout le département. Le premier empêche tout rassemblement festif musical. Le second interdit la circulation des véhicules qui transporte du matériel sonore qui pourrait être utilisé dans une free party. Des patrouilles de police sont sur le terrain depuis hier soir, notamment autour de Saint-Prix. Je comprends l'envie de faire des fêtes. Le confinement a été dur, explique la maire LR de Saint-Prix, Céline Villecourt. Mais on ne fait pas n'importe quoi, n'importe où.
Olivier Vogel. Et de leur côté, les discothèques ne savent toujours pas quand elles vont pouvoir rouvrir. Le ministre délégué au PME, Alain Griset, annonce ce matin un soutien financier de 15 000 euros par mois pour les établissements de nuit qui sont fermés depuis plus de 4 mois désormais. La crise de la Covid-19 qui touche aussi et particulièrement les États-Unis, plus de 4 millions de personnes sont touchées par le virus. Le président Donald Trump prend la situation de plus en plus au sérieux. Il a même renoncé à la grande convention républicaine qui devait officialiser son intronisation comme candidat du parti à la présidentielle. Ce meeting devait se tenir en Floride où la situation sanitaire est particulièrement grave, Loïc Loury.
Pour le président américain, pas de grande fête d'intronisation, un aveu d'échec terrible sur le chemin de sa réélection, plus que jamais menacé par l'épidémie de Covid-19. « Nous n'allons pas faire une grande convention publique », disait-il hier. « Ce n'est pas le moment, mon devoir », affirme Donald Trump, « est de protéger les Américains ». Le timing pour cet événement, a-t-il reconnu, n'est pas le bon. Et de fait, la Floride a encore enregistré hier plus de 10 000 contaminations et 173 morts du Covid. Cette décision, par ailleurs, et dans la suite logique de ses récentes prises de position, le patron de la Maison-Blanche, mercredi, en effet, a changé son fusil d'épaule du tout au tout et reconnu que la situation empirait. Quant à savoir quelle solution de repli adopter, c'est encore très flou. Les démocrates, eux, organiseront une convention presque 100% virtuelle pour investir leur candidat, Joe Biden, donné favori à bientôt 100 jours de la présidentielle.
Précision à New York de Loïc Loury, les États-Unis et les frictions avec la Chine qui s'accentue ce matin. Pékin ordonne la fermeture du consulat américain à Chengdu dans le sud-ouest du pays. Une décision en réponse à la fermeture du consulat de Chine à Houston il y a 3 jours. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a même déclaré que le consulat chinois était, je cite, une plaque tournante de l'espionnage et du vol de propriété intellectuelle. Une tension orchestrée par Donald Trump afin d'envoyer un message en vue de l'élection présidentielle. C'est ce qu'explique Antoine Bondaz. Il est chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Ce sont des mesures politiques extrêmement fortes puisque c'est la première fois que les États-Unis ferment un consulat chinois sur leur territoire. La décision de fermer Houston est liée à des craintes en termes d'espionnage, mais il ne faut pas être naïf. L'ensemble des consulats chinois aux États-Unis sont utilisés à des fins d'espionnage de la même façon que les consulats américains en Chine ont également dans leur mission de faire de l'espionnage. Mais l'idée pour les États-Unis, c'est sur la question de la propriété intellectuelle, sur la question de l'espionnage, d'envoyer des signaux clairs que désormais ce qui était accepté peut-être auparavant ne le sera plus, mais également évidemment d'envoyer un message clair à la classe politique américaine et à la population américaine que le président Trump prend les choses en main, ose affronter désormais la Chine. Et évidemment, cela arrive au tout début de la campagne présidentielle, avant même qu'il y ait des débats entre Donald Trump et Joe Biden. Et on voit venir dès à présent les arguments de Donald Trump qui seront de dire « je suis fort, je suis dur vis-à-vis de cette menace », alors que Joe Biden, lui, est un faible. Et là, clairement, on a ce qui se prépare dans les éléments de langage pour la campagne présidentielle, étant donné que la Chine sera, en termes de politique étrangère, le gros sujet de cette campagne 2020.
Le chercheur Antoine Bondaz au micro de Chloé Cambrelin. Et il n'y a pas qu'avec la Chine que les relations seront importantes pour cette campagne présidentielle américaine. Celles avec la Russie seront également déterminantes. Là aussi, la tension monte. Dans le domaine spatial, Washington accuse Moscou d'avoir testé une arme anti-satellite. L'espace devient en effet petit à petit un lieu de dispute de la suprématie mondiale. Le risque est de voir se développer des manœuvres inamicales, selon les mots de la ministre française des armées, Florence Parly, dans une interview à La Provence. La France compte d'ailleurs se prémunir dans ce domaine, Nathanaël Charbonnier, et renomme d'ailleurs son armée de l'air et de l'espace.
C'est la suite logique d'un envol qui a eu lieu officiellement l'année dernière avec la création de cette armée de l'espace, 200 hommes, 3,5 milliards jusqu'en 2025. L'espace va devenir un lieu d'affrontement, tout le monde en est persuadé, et surtout, tout le monde s'y prépare. Avec une logique bien particulière qui dit que pour préserver la paix dans le ciel, il vaut mieux être armé. En clair, il faut être en mesure de protéger nos satellites, d'où la fabrication d'armes de l'espace, des satellites militaires capables de brouiller, aveugler, voire détruire des engins ennemis qui seraient agressifs. Et là, il ne s'agit pas de science-fiction. Les États-Unis ont accusé hier la Russie d'avoir testé une arme qui pourrait être utilisée pour détruire des satellites dans l'espace. Selon le commandement spatial américain, les militaires auraient des preuves que Moscou a conduit un test non destructeur d'une arme anti-satellite depuis l'espace le 15 juillet dernier. Les Russes, très actifs dans l'espace, la France le sait, puisqu'en 2017, l'un de nos satellites militaires avait été approché par un satellite espion russe, un avertissement qui n'a pas été pris à la légère, car l'armée de l'espace française annonce disposer bientôt de petits satellites patrouilleurs capables de gérer ce genre d'attaque.
Nathanaël Charbonnier, la Russie qui a réagi ce midi à ses propos, le Kremlin réaffirme sa fidélité à l'objectif de démilitarisation complète de l'espace. En Turquie, c'est aujourd'hui qu'a lieu la première prière musulmane dans l'ex-basilique Sainte-Sophie. L'édifice a été reconverti en mosquée il y a quelques semaines. Le président turc Recep Tayyip Erdogan participera comme un millier de fidèles à cet événement. Au Royaume-Uni, Boris Johnson souffle sa première bougie en tant que Premier ministre du pays. Une année riche en rebondissements pour le conservateur qui a dû gérer entre autres le dossier du Brexit qui n'est d'ailleurs toujours pas finalisé, mais aussi la crise de la Covid-19. Un Premier ministre qui a été largement critiqué sur la gestion de cette épidémie, Elodie Goulesque, et qui achève aujourd'hui une première année plus difficile que prévu à Downing Street.
En juillet dernier, on découvrait un Boris Johnson affiné aux cheveux blonds, ébouriffé par le bonheur d'être enfin Premier ministre et prêt à tout, y compris à destituer 21 députés conservateurs et suspendre le Parlement de façon illégale pour sauver le Brexit. Tout avait bien commencé lors des élections de décembre. Boris Johnson remportait une majorité conservatrice au Parlement jamais vue depuis Margaret Thatcher et grâce à laquelle le Brexit a finalement été acté au 31 janvier. Puis les choses se sont gâtées avec l'arrivée du Covid-19 et un Premier ministre qui a mis du temps à réaliser l'ampleur l'ampleur du virus, comme le rappelle cette conférence de presse du 3 mars dernier.
J'étais à l'hôpital l'autre soir où il y avait quelques patients atteints du coronavirus et vous serez ravis d'apprendre que j'ai serré la main à tout le monde et que je continuerai à le faire.
Un mois plus tard, Boris Johnson était hospitalisé du Covid en soins intensifs entre la vie et la mort et aujourd'hui, le Royaume-Uni comptabilise le plus grand nombre de morts en Europe avec plus de 45 000 décès. Une première année plus compliquée que prévu donc pour Boris Johnson, tout de même égayé par la naissance de son fils avec Carrie Symons. Mais l'avenir ne s'annonce pas plus simple. Une enquête est prévue pour analyser la gestion du Covid par le gouvernement. Alors que la crise économique guette le pays, le Brexit lui est toujours prévu au 31 décembre. Mais avec des négociations qui peinent à avancer, l'hypothèse d'une sortie sans accord pèse de plus en plus sur le pays.
Elodie Goulesque est toujours sur l'épidémie de coronavirus. Une étude brésilienne pointe aujourd'hui l'inefficacité de l'hydroxychloroquine. Et ce alors que le président Jair Bolsonaro en est un fervent défenseur. L'étude a été menée dans 55 hôpitaux du pays sur près de 700 patients. Résultat, le médicament pourrait avoir plus d'effets secondaires néfastes et notamment des problèmes au foie et au cœur. En France, près d'un millier de personnes ont manifesté à Sarreguemines, en Moselle, ce matin. Des employés de l'usine Smart de Hambar, accompagnés de plusieurs élus locaux. Le groupe Daimler-Mercedes, qui détient le site, veut s'en séparer. Plus de 1600 emplois sont menacés. Daimler, qui avait d'ailleurs négocié en 2015 un maintien de l'emploi jusqu'en 2020, si les salariés acceptaient de travailler 39 heures, payés 37. Aujourd'hui, la vente de l'usine est une catastrophe pour le maire d'Hambar, Daniel Muller.
Pour nous, c'est une catastrophe, hein, aussi, parce que Mercedes, c'était comme la vitrine sur notre commune. C'était la vitrine de la région, même au-delà des frontières, puisqu'il y a des Allemands, il y a des étrangers qui travaillent aussi sur site. Donc pour nous, c'est quelque chose de catastrophique. Hein. J'ai surtout une pensée pour les gens qui ont investi dans notre commune pour acheter une maison, parce que la démographie, la comète est croissante au fil des années et c'est Mercedes qui a fait venir cette population et maintenant du jour au lendemain, ils risquent d'être démunis si jamais l'usine fermerait et les emplois ils seraient menacés. Les gens risquent de partir de la commune, on va perdre donc des habitants, on va perdre des enfants qui vont à l'école locale. Donc ça engendrera beaucoup, beaucoup de choses pour la commune.
Le maire d'Hambar, Daniel Muller, avec Marc Bertrand de France Bleu Lorraine Nord. Autre reprise industrielle, celle de l'enseigne Camailleux en redressement judiciaire. Quelques dizaines de salariés se sont rassemblés devant le tribunal de commerce de Lille avant l'examen de deux offres de reprise. L'une d'entre elles prévoit la reprise de plus de 2600 salariés sur les 3100 de l'entreprise. Une étude inquiétante sur la quantité de plastique dans les océans. Elle est publiée par une ONG américaine et prévoit le triplement des déchets plastiques dans les eaux internationales d'ici 20 ans si aucune mesure n'est prise. Les politiques publiques mises en place pour tenter de lutter contre cette pollution sont limitées, voire inopérantes. Les deux prochaines décennies seront clés, Véronique Robérotte, et tout est encore possible pour inverser cette tendance.
Le rapport décrit une augmentation exponentielle des rejets de plastique dans les océans qui étouffent déjà sous l'accumulation de déchets plastiques. À l'heure actuelle, ce sont environ 40 millions de tonnes de plastique qui finissent chaque année dans la nature, 30 millions sur les terres et 11 millions dans les océans ou cours d'eau. Si rien n'est fait pour accroître la lutte contre cette pollution, la quantité déversée dans les environnements terrestres ou aquatiques sera multipliée chaque année par 2,7% en moyenne d'ici à 2040, soit 1,3 milliard de tonnes de plastique de plus en l'espace de 20 ans, précise le rapport. Enrayer cette pollution est encore possible selon les chercheurs. Les stratégies de réduction du plastique existent déjà, les connaissances sont là, mais tout l'enjeu est qu'elles soient mises en œuvre à grande échelle. Ces stratégies à combiner, ce sont la substitution par d'autres matériaux comme le papier, la réutilisation et l'amélioration de la collecte et du recyclage. Simplement, il manque une réelle stratégie globale, concrète et planétaire, estiment les chercheurs. Les mesures prises en France ou en Europe, comme l'interdiction des plastiques à usage unique ou des microbilles de plastique, ne permettent de réduire l'ampleur de cette pollution que de 7%. Une vraie politique de réduction serait d'en finir avec tous les plastiques inutiles comme les sacs et de déployer une vraie filière de retraitement après une collecte généralisée des plastiques. Même un peu optimiste, rien n'est perdu. Hein. Comme pour le climat, l'étude ne cache pas que ce sera difficile de stopper cette pollution plastique exponentielle. En supposant la mise en place de toutes les mesures actuellement disponibles, 710 millions de tonnes de plastique seront encore rejetées dans la nature dans les 20 ans, dont 250 millions de tonnes dans les rivières et océans. Et
Véronique Robérotte, le temps de ce vendredi est marqué par des éclaircies et quelques averses sur les reliefs selon les prévisions de Météo France. La journée débute au nord sous les nuages, mais de belles éclaircies sont présentes ailleurs. Mistral et Tramontane vont souffler en rafale jusqu'à 60 km/h. Les températures de 19 à 25 au nord jusqu'à 33 cet après-midi dans le Languedoc. Ce journal a été réalisé par Brice Garcia. Prochaine édition à 18h avec Isabelle Souquet.